Les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Il y a des courses cet après-midi à Vincennes. Nous avons déjà l'arrivée de la première course, 7, 3 et 10. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, en raison de l'actualité, nous avons bousculé le programme de cette semaine. L'émission prévue aujourd'hui sur la Saint-Barthélemy est reportée à demain, remplacée par une émission spéciale de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui avec Christian Chéneau qui est à Amman, la fin d'un dictateur.
Ladies and gentlemen, we got him.
D'histoire. We got him, nous l'avons eu. L'administrateur américain en Irak, Paul Bremer, ne cachait pas son émotion en annonçant hier la fin d'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire. La capture de celui qui, avec Oussama Ben Laden, est resté pendant 8 mois l'homme le plus recherché du monde. Découvert dans un trou de 7 mètres de profondeur à quelques kilomètres de son fief de Tikrit, Saddam Hussein était aussitôt exhibé sur tous les écrans de télévision du monde, examiné par un médecin militaire américain. Il était difficile de croire qu'avec ses cheveux en bataille et une barbe de plusieurs semaines, cet homme était celui qui, pendant 35 ans, avait imposé à l'Irak un des régimes les plus sanglants des temps modernes. Écoutez le commandant des troupes américaines en Irak, le général Ricardo Sanchez, hier sur LCI.
Saddam Hussein est actuellement aux mains de la coalition, un endroit qu'on ne peut pas révéler pour le moment. Actuellement, je vais vous montrer un petit vidéo. Si on peut envoyer le vidéo, merci. Ce que vous voyez ici, c'est un aperçu du trou dans lequel on a trouvé Saddam Hussein. Ça, c'est Saddam Hussein. Alors qu'on l'examinait aujourd'hui, la capture de Saddam Hussein, c'est un moment très important qui ouvre une nouvelle ère pour l'Irak. Je pense que la détention de Saddam Hussein, ça va marquer le début de la réconciliation pour le peuple irakien.
Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Jordanie, le correspondant de RFI à Amman et l'auteur d'un livre, L'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein dont tout le monde a pu voir le visage hier sur tous les écrans de télévision du monde. Est-ce qu'on les a vus à Amman où vous vous trouvez? Et quelle était la réaction des Jordaniens? Parce qu'on a entendu quelques journalistes dans l'archive qu'on vient d'entendre applaudir à l'annonce de l'arrestation de Saddam Hussein. Est-ce que ça a été le cas en Jordanie?
Bah écoutez, en Jordanie, ça a plutôt été la stupeur à l'annonce de l'arrestation de Saddam Hussein. Et puis malgré les images diffusées à la télévision, beaucoup dans le royaume eh bien n'arrivent toujours pas à croire à la capture du président irakien. Vous savez, ici, Saddam bénéficiait et bénéficie toujours d'une cote d'amour dans la population jordanienne qui est majoritairement palestinienne. Et ici, finalement, ce n'est pas tellement la capture d'un dictateur qui a été retenu, mais plutôt la fin un peu pitoyable d'un leader arabe qui se voulait le champion de la cause palestinienne, l'homme qui a dit non aux Américains. Alors les gens regrettent aussi qu'il n'ait pas combattu jusqu'au bout, et donc la rue jordanienne ressent une sorte de tristesse en voyant les images de Saddam, et les Jordaniens, comme beaucoup d'Arabes d'ailleurs, ont ressenti une forme d'humiliation, une atteinte à leur dignité, donc en voyant ces images un petit peu pitoyables de Saddam Hussein.
Mais il s'agissait d'humilier un homme qui aimait se comparer, vous le rappelez dans votre livre, à quelques grands noms du monde arabe. Vous rappelez justement que dans sa jeunesse, et ça a beaucoup compté, du temps où il était auprès de son oncle maternel, il aimait se comparer à Nabuchodonosor, à Saladin, qui est né à Tikrit, comme lui, en 37, ou à Nasser encore.
Oui, Saddam est vraiment le fils de l'Irak. Il a connu effectivement une enfance un petit peu malheureuse. Comme vous l'avez dit, il a été éduqué par son père. Alors effectivement, il vivait un peu dans les mythes irakiens, les grandes figures de l'histoire irakienne, comme vous le disiez, Nabuchodonosor, Saladin, et même le calife des mille et une nuits, Haroun et Rachid. Et donc, c'est un petit peu ces personnages qui ont un petit peu façonné sa mentalité.
Et c'est avec ces modèles en tête qu'il adhère au BAS à l'âge de 14 ans, en 1951. Il faut peut-être rappeler, Christian Cheynaud, ce qu'était le BAS, hein, qui est tombé en même temps que Saddam Hussein il y a quelques mois. C'était pas du tout un parti islamiste, hein, c'était un parti laïque, socialiste et pan-arabe.
Exactement. Le parti BAS a été créé dans les années 40 par un chrétien qui s'appelait Michel Aflaq et qui voulait finalement réunifier la nation arabe, les pays arabes qui avaient été, selon l'idéologie du parti, eh bien divisés par les puissances colonisatrices. Et donc pour cela, eh bien, il fallait réunifier ces pays grâce à l'arme du pétrole, enfin, aux richesses des pays arabes, pour pouvoir remonter la pente, recréer une grande nation arabe. Et effectivement, la laïcité était l'un des moyens de transcender finalement les différences locales.
Un parti BAS, je crois, qui était très minoritaire en Irak, quand Saddam Hussein y adhère au début des années 50, je crois.
Tout à fait. À l'époque, c'est plutôt le Parti communiste qui est le principal parti en Irak. Et le Parti BAS, effectivement, n'en est qu'à ses débuts. Mais rapidement, effectivement, il va gagner en influence puisque son idéologie, finalement, rassemble un petit peu tous les Irakiens, à la fois les chrétiens, donc qui sont séduits par son idéologie laïque, et puis aussi les sunnites, qui sont, eux, séduits par l'idée de nation arabe, et puis même les chiites, qui, eux, sont attirés par, je dirais, le programme social du BAS, le programme socialiste, donc plutôt égalitaire. Donc finalement, tout le monde trouve son compte dans ce parti rassembleur.
Et qui n'arrive au pouvoir qu'après une série de coups d'État, hein, 3 au total en 10 ans, dont le dernier en 1958 porte au pouvoir donc un mystérieux conseil de la révolution dont fait partie un homme dont tout le monde ignore encore le nom, Saddam Hussein. France Inter, Jacqueline Baudrier, le 17 juillet 1968.
À 5 heures ce matin, la nouvelle tombait sur les téléscripteurs, coup d'État en Irak. Bernard Lano était déjà au micro d'Interactualité.
Tout s'est passé selon un processus désormais classique et immuable. À l'aube, des unités de blindés investissaient le palais présidentiel, le ministère de la Défense et les bâtiments de la radio. Il semble que l'opération se soit déroulée sans effusion de sang et que les putschistes aient préparé leur coup avec précision. Depuis qu'ils se sont emparés de la radio, les officiers putschistes, qui s'expriment sous le couvert anonyme d'un conseil du commandement de la Révolution qui a pris tous les pouvoirs, ont publié un certain nombre de proclamations annonçant la déchéance du général Arès et sa mise à la retraite.
Alors c'était le coup d'État de 1968 qui, il y a 35 ans, portait au pouvoir le BAS et son chef, le général Bakr. C'était lui le nouveau président. Mais en réalité, celui qui, dès cette époque-là, en devenant vice-président irakien, a gouverné l'Irak pendant 11 ans, c'était Saddam Hussein. Il avait 31 ans, Christian Cheynaud.
Tout à fait. Et à cette époque, Saddam Hussein est le garde du corps de Ahmed Hassan el-Bakr, donc son bras droit. Et Saddam Hussein va être nommé un an après donc la révolution, enfin le coup d'État de 68, donc en 69, et c'est lui, effectivement, qui va tirer les ficelles en coulisses, c'est lui le véritable homme fort de l'Irak, et c'est lui qui va mettre en place tout l'appareil sécuritaire des services de renseignement, de l'armée, c'est lui donc qui va, dans l'ombre, diriger l'Irak.
Et puis c'est lui qui est aussi un des principaux artisans du redressement économique de l'Irak, et cela, d'abord en nationalisant le pétrole irakien. Ça, c'est quand même une espèce de déclaration de guerre aux Occidentaux en 72.
Effectivement, et là, on a un petit peu l'impression que Saddam se prend un petit peu comme Nasser, qui avait nationalisé le canal de Suez en 56. Ouais. Là, Saddam s'inspire un petit peu de cet épisode, nationalise le pétrole, et à cette époque, il a une vision un petit peu modernisatrice de la société. Il veut faire, en fait, de l'Irak une puissance dominante au Moyen-Orient pour contrer Israël, et puis pour parler d'égal égal avec les Occidentaux. Alors, il va mettre cette ressource pétrolière, cette manne, au service du développement de l'Irak. Et les années 70 vont être pour le pays une période de prospérité, de grands travaux et de modernisation dans tous les domaines.
Et une manne qui est sacrément importante parce que le pétrole est nationalisé en 72 et un an plus tard, c'est la crise du pétrole qui va augmenter considérablement le prix du pétrole. À ce moment-là, on fait risette, évidemment, aux Irakiens. Et parmi les
des pays qui leur font de larges sourires. Il y a tous les pays occidentaux, notamment la France, qui les reçut très chaleureusement en France, je crois, en 1975, Christian Chéneau.
Oui, c'est à l'époque, effectivement, des relations dorées entre la France et l'Irak. Il y a une espèce de flash, je dirais, entre Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre, et le jeune numéro 2 du régime irakien, Saddam Hussein. Les deux hommes ont une perspective de modernisation de l'État, et donc la France va trouver en Irak des débouchés très importants, à la fois pour ses entreprises du bâtiment, de l'eau, du secteur de l'électricité, et puis aussi pour son secteur d'armement. Et les Irakiens disent même maintenant que finalement c'est grâce à Saddam Hussein que l'industrie d'armement française a prospéré dans les années 70, qui à l'époque la France commençait à entrer dans la crise, et l'Irak payait rubis sur l'ongle des commandes d'armement très importantes. C'est aussi à cette époque que la France va fournir le premier réacteur nucléaire à l'Irak.
Qui sera bombardé par l'Israélien.
Exactement. Et là, on voit bien que Saddam Hussein, toujours obsédé par cette puissance irakienne qui veut faire de son pays la grande puissance du Moyen-Orient, veut conquérir l'arme nucléaire, veut se développer pour dominer la région.
Alors en tout cas, la France, les États-Unis, tous les pays occidentaux ferment les yeux sur la violence d'un régime dont Saddam Hussein prend la tête en 1979 après le départ du général Bakr. La revue de presse de l'époque, Stéphanie Duncan.
Oui, quand le 18 juillet 79, le vice-président, donc Saddam Hussein, devient président de l'Irak, l'homme est déjà bien connu en France. Alors, depuis notamment sa visite officielle en 75, il jouit chez nous d'une image plutôt positive, donc un homme à poigne, certes, mais fréquentable. Dans le Figaro, sous le titre « Saddam Hussein, conciliateur possible du monde arabe », Paul-Marie de la Gorce rappelle les étapes de son accession au pouvoir, son enfance pauvre, la lutte clandestine, la prison. « Ce lutteur ne cessera jamais de lutter », écrit Paul-Marie de la Gorce, qui évoque aussi les pendaisons, les emprisonnements, l'impitoyable épuration de l'armée qu'il a menée. Mais, dit-il, pour Saddam Hussein, ses luttes étaient indissociables de son combat pour la modernité de l'Irak. Alors, quant à sa politique pétrolière, Saddam Hussein, se félicite le journaliste du Figaro, sut négocier l'éviction des compagnies anglo-saxonnes et y parvint en grande partie grâce à l'aide intelligente de la diplomatie française et de la Compagnie française des pétroles. Alors, au moment donc où il devient président de l'Irak, en juillet 79, le journal La Croix voit dans ce triomphe, je cite, le parachèvement d'une des carrières politiques les plus brillantes et les plus précoces du monde arabe. Le Matin de Paris parle, je cite, d'un homme à poigne, au demeurant fort courtois et non dénué d'humour. Ce sont ses qualités de fonceur qui ont, écrit le Matin de Paris, persuadé Jacques Chirac qu'ils étaient tous les deux des hommes de la même trempe. L'amitié entre les deux hommes, probablement sincère, a en tout cas donné naissance à une entente cordiale entre l'Irak et la France. Donc un an après, en 80, beaucoup de journaux français continuent de donner de Hussein une image assez positive. Noël Darbrose, dans La Croix, il évoque bien l'élimination menée par Saddam de ses adversaires politiques, mais il remarque qu'en un an, Hussein a accompli un travail considérable, qu'il a instauré un régime stable. Si de surcroît, écrit le journaliste de La Croix, Hussein débarrasse le monde islamique d'un ayatollah fanatique, hein, il s'agit bien sûr de Khomeini, on est en pleine guerre Irak-Iran, et il s'attirera la reconnaissance de bien des pays inquiets d'une contagion extrémiste. Et Philippe de Bosset, dans le Figaro, continue de voir en Saddam, je cite, un patriote fonceur, pragmatique, réaliste, à la vie tumultueuse, certes, et à l'intelligence et à la volonté hors pair. Un portrait dressé à la même époque par le Sunday Times à Londres donne une image moins séduisante de Saddam Hussein. Sous le titre « La route sanglante qui a conduit Saddam au pouvoir », Nicholas Carroll, donc du Sunday Times, affirme qu'il est aujourd'hui un des leaders arabes les plus impitoyables, qu'il a fait de l'Irak un régime répressif, tout en haut sur la liste noire d'Amnesty International. Le journaliste anglais invite donc le Moyen-Orient à se méfier, je cite, des ambitions de ce leader imprévisible.
Un commentaire sur ces articles de 1979-1980, Christian Chéneau, on voit bien que, à part le journaliste du Sunday Times, on est plutôt indulgent pour Saddam Hussein, alors qu'on connaît très bien, on sait très bien qu'il est, que c'est un personnage extrêmement violent, dès 79.
Oui, tout à fait. Là, ça reflète bien effectivement un petit peu l'hypocrisie de l'Occident, enfin de la France, mais aussi de l'Occidentaux, des Occidentaux, parce que l'Amérique aussi va armer Saddam Hussein. Mais à l'époque, effectivement, Saddam est perçu comme un leader d'un pays arabe qui veut moderniser son pays, je le répète, je veux dire, donne beaucoup de contrats aux compagnies occidentales. Et donc, comme on dit, il est fréquentable. Et donc, les journalistes sont un petit peu finalement on l'a dans pas très dur contre lui.
Il est fréquentable, sauf pour ses adversaires. Hein. Vous rappelez effectivement que dès 79, par exemple, il épure le bas. Il y a cette séance extraordinaire où, en pleine réunion, je crois, il désigne tous ceux qu'il va faire fusiller dans l'heure qui suit, qui sortent de la salle. C'est très impressionnant quand on en voit les images. Ça a même été filmé d'ailleurs.
Voilà, exactement. Il est, on voit Saddam sur la tribune, fumant un cigare, le sourire aux lèvres et désignant les camarades, entre guillemets, qui vont être fusillés dans l'heure, personne ne bronche dans la salle, et le malheureux qui est désigné est emmené par des gardes du corps et qui va être ensuite éliminé physiquement. Parce que, effectivement, si Saddam, sur le plan économique, va réussir à faire décoller son pays dans les années 70 et va construire un état-providence pour les Irakiens, à l'époque, le niveau de vie de l'Irakien moyen équivaut à celui d'un Européen. En revanche, il achète donc cette paix sociale, entre guillemets, par une violence et une répression interne féroce. Il va faire la guerre aux Kurdes, il va éliminer physiquement les cadres du Parti communiste, et puis il va s'en prendre aussi aux chiites, aux leaders religieux chiites, en tuant certains et en emprisonnant d'autres et en expulsant aussi de nombreux.
Et aidé en cela aussi par sa propre famille, parce que ses enfants étaient pratiquement plus féroce que lui, il faut le rappeler quand même.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le cas du régime de Saddam Hussein, c'est qu'il avait réussi à faire une espèce d'osmose, une alliance ou une synthèse entre le stalinisme, je veux dire un parti unique, pyramidal, qui contrôle tout le pays avec un chef, et puis il avait su utiliser les tribus, je veux dire la tradition irakienne, c'est-à-dire qu'il avait mélangé effectivement ses alliances tribales et les alliances partisanes, et donc ça faisait un système extrêmement redoutable, violent, et qui avait des relais au sein des tribus, et notamment de sa propre tribu, de son clan, des Tikritis, et donc il a battu tout son appareil sécuritaire sur des fidélités avec sa tribu. Et donc le résultat, eh bien, c'est un régime répressif et d'une efficacité diabolique.
Et d'une violence sur laquelle l'Occident veut fermer les yeux jusqu'en 1990, y compris dans la guerre que Saddam Hussein entreprend contre l'Iran de Khomeini. France Inter, le 23 septembre 1980.
La guerre sur la route du pétrole, vague de bombardements irakiens sur l'Iran, Bagdad appelle à la mobilisation générale, c'est ce qu'a observé depuis Beyrouth notre correspondant permanent, Alain Chalvron.
Depuis hier, Bagdad a tout d'une capitale en guerre. La radio a interrompu ses programmes normaux et diffuse des marches martiales entrecoupées par des communiqués militaires. Le conseil de commandement de la révolution, la plus haute instance du pays, a appelé, je cite, tous les Irakiens à s'apprêter à défendre leur patrie.
Abba Khomeini, vive Saddam. Ce sont des soldats irakiens qui scandent ça. Ils sont à Mardan, en plein territoire iranien, une ville de 25 000 habitants qu'ils ont prise jeudi.
C'était le début d'une guerre qui allait durer 8 ans contre l'Iran, 1 million de morts, avec la bénédiction des pays occidentaux, États-Unis en tête, qui soutiennent Saddam. On voit bien qu'il n'y a pas que le pétrole qui intéresse les occidentaux, il y a aussi le fait qu'il sert de rempart, au fond, contre le danger d'un Iran communiste. Christian Chéneau.
Oui, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée au pouvoir en 79 de Khomeini, Saddam finalement prend peur, les pays arabes prennent peur, notamment les monarchies pétrolières du Golfe, les occidentaux aussi craignent la contagion islamiste dans le monde arabe, et donc là, on voit bien que Saddam va servir de rempart, de bouclier, pour finalement contrer les ambitions de Khomeini d'exporter la révolution islamique dans le monde, et pour cela, eh bien, les arabes du Golfe vont payer Saddam et vont lui financièrement vont lui donner beaucoup d'argent, et les Occidentaux vont l'armer contre Khomeini. Les Américains, il faut savoir que à l'époque, dans les années 80, Rumsfeld fait partie de l'administration de Ronald Reagan, et des gens comme Tariq Aziz ou d'autres font le voyage à Washington, et à l'époque les liens sont très très intenses, et la France va effectivement fournir des avions, mais surtout les fameux Exocet, les missiles Exocet, qui vont être utilisés par Saddam Hussein pour couler les navires iraniens dans le Golfe.
Alors cela dit, cette guerre, et c'est le début d'un engrenage qui va conduire l'Irak à deux guerres, aux deux guerres du Golfe. Cette fois-ci, il se retrouve en face des pays occidentaux qu'il avait jusque-là soutenus, mais qui cessent de le faire lorsqu'il annexe le Koweït en 1990. Il y a une première guerre pendant laquelle George Bush père ne va pas jusqu'au bout, puisqu'il laisse en place le régime de Saddam Hussein, et ce n'est que 12 ans après que son fils, que Saddam Hussein devient la bête noire de George Bush Jr., qui accuse Saddam Hussein de soutenir Al-Qaïda, de cacher des armes de destruction massive qu'on n'a toujours pas trouvées, et surtout qui attaque, donc dans la nuit du 20 au 21 mars 2003, l'Irak, une offensive américaine qui n'impressionne pas Saddam Hussein, qui 4 jours après le début de l'offensive américaine s'adresse une dernière fois à son peuple le 24 mars 2003.
L'ennemi s'est piégé lui-même et se trouve maintenant devant un peuple grand et une armée expérimentée. Donc frappez aux Irakiens, frappez aux combattants, frappez votre ennemi avec force et précision. Frappez avec l'âme de combat et fatiguez votre ennemi afin qu'il se paralyse. L'ennemi qui a cru que sa guerre serait courte sera déçu. Sa guerre s'allongera et il ne rencontrera que des fêtes et humiliations. Dieu est grand. Dieu est grand. Et que soit humilié l'ennemi.
C'était Saddam Hussein, 24 mars 2003, quelques jours après l'offensive américaine de cette année. Et on voit, il fait appel à la religion cette fois-ci. Ce n'est plus le Bas qui parle, c'est vraiment un peu le leader religieux, Christian Chéneau.
Effectivement, vous savez, Saddam avait rompu finalement avec l'idéologie du Baas laïque après la guerre du Golfe, donc de 91, parce qu'il avait senti son pouvoir lui échapper. Donc après la révolte des chiites au sud et des Kurdes au nord, finalement il avait renversé la vapeur, il avait pu écraser le soulèvement, mais là il avait senti que son pouvoir finalement lui échappait, et donc pour finalement redorer son blason, il avait fait appel à la religion pour finalement devenir le chef des croyants. Il avait lancé une campagne de la foi, il avait interdit l'alcool, il avait même inscrit avec sa propre écriture Allahu Akbar, c'est-à-dire Dieu est grand, sur le drapeau irakien, l'inscription que l'on voit en vert. Et donc tout ça pour finalement se maintenir au pouvoir, car ces 10 dernières années, eh bien Saddam était obsédé par sa survie personnelle, et tout était fait pour assurer sa protection. Et quand le régime tombe en avril, eh bien il met en place il avait déjà prévu et anticipé finalement cette chute de Bagdad, et il plonge dans la clandestinité avec déjà des plans, des cachettes. Il avait un petit peu anticipé cette nouvelle période.
Oui, parce qu'il disparaît le 4 avril 2003, on le voit encore dans les rues de Bagdad, et puis brusquement il disparaît. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui un peu plus précise de l'endroit où il s'est planqué comme ça pendant 8 mois, Christian Chéneau?
C'est-à-dire que dans Bagdad, il avait peu de lieux pour se cacher, puisque vous savez, dans Bagdad, il y a beaucoup de quartiers chiites, et donc et puis beaucoup d'Américains, donc difficile de se cacher. En revanche, dans ce qu'on appelle le fameux triangle sunnite, qui va de Ramadi à l'ouest, Tikrit au nord et Diyala à l'est, et bien dans cette zone sunnite où Saddam pouvait compter encore sur des partisans qui appartenaient aux tribus sunnites, et bien apparemment Saddam se déplaçait de planque en planque. Les Américains hier ont dit qu'il avait entre 20 et 30 cachette et Saddam avait autour de lui quelques gardes du corps, quelques personnes de confiance, il avait de l'argent avec lui, il communiquait avec ses partisans par le biais de messagers, les Américains n'ont pas retrouvé ni téléphone, ni appareil de radio, donc il était un petit peu fondu dans la population et opérait finalement au nez à la barbe des Américains, mais sa cabale s'est terminée donc avant-hier, pas très loin finalement de son lieu de naissance qui est El Roger, près de Tikrit.
Est-ce que son arrestation peut arrêter les attentats, ramener le calme en Irak? C'est ce que disait hier George Bush en annonçant aux Irakiens l'arrestation de Saddam Hussein.
Ça me paraît un petit peu difficile.
Vous étiez à Bagdad, je crois, vendredi dernier.
Voilà. Parce que, par exemple, cet été, juste après la disparition des deux fils de Saddam Hussein, en juillet, Houdaï et Koussaï, les Américains avaient dit peut-être que ça va contribuer à faire baisser la résistance. Et on a vu que ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'actuellement, on va vers le même scénario parce que la résistance irakienne dépasse largement la simple personnalité du président déchu Saddam Hussein. Et elle englobe bien sûr des partisans du Baas, des anciens militaires, mais aussi des nationalistes qui étaient opposés à Saddam Hussein, des islamistes et tous les gens finalement qui luttent contre l'occupation. Donc il est très peu probable qu'à court et moyen terme, eh bien la résistance faiblisse. Il y a encore eu aujourd'hui des attentats dans Bagdad.
Saddam Hussein aimait dire une idée qui n'existe pas par elle-même, elle est incarnée par une personne qui doit être physiquement éliminée pour que l'idée disparaissent. C'est une formule qu'il a utilisée contre ses adversaires. Mais lui-même, aujourd'hui, il est vivant, il va être jugé, il va se défendre. Est-ce que le procès qui va avoir lieu ne sera pas pour lui une espèce de tribune, au fond? Est-ce que ce n'est pas le risque
d'un procès? Tout à fait. Et pour les Américains, le procès risque d'être difficile à gérer sur le plan médiatique. Ça pourrait être un piège, parce que, comme on l'a dit au début de l'entretien, Saddam bénéficie encore d'une popularité dans le monde arabe. Il a encore des partisans en Irak. Donc il peut effectivement se servir du procès comme d'une tribune, il peut aussi révéler des secrets, des secrets d'État, hein, avec les relations entre l'Irak et la France, avec les États-Unis. Donc il a beaucoup de choses à dire. Donc effectivement, Saddam vivant est peut-être plus dangereux que Saddam éliminé pour les Américains. Donc le piège pourrait être un petit peu un boomerang pour les Américains qui se sont peut-être réjouis un petit peu trop vite de leur succès.
Merci Christian Chéneau. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Amman. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur avec Georges Malbruno de L'Irak de Saddam Hussein, portrait total, un livre publié aux éditions numéro 1. Et toujours avec Georges Malbruno, vous avez publié Les mémoires de Saman Abdul Majid, traducteur de Saddam Hussein pendant 15 ans, un livre qui s'appelle Les années Saddam et qui a été publié chez Fayard. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, documentation Virginie Boclenet et Claire Tesser, avec des archivina, LCI.